Moi, je regardais avec révérence et peur. En cet instant, j'étais convaincu que Jacopo Belbo avait raison. Quand il me parlait du pendule, j'attribuais son émotion à une divagation d'esthète, à ce cancer qui prenait lentement forme, informe, dans son âme, transformant petit à petit, sans qu'il s'en rendît compte, son jeu en réalité. Mais s'il avait raison pour le pendule, tout le reste aussi était peut-être vrai. Le plan, le complot universel. Et il était juste que je sois venu là, la veille du solstice d'été. Jacopo Belbo n'était pas fou. Il avait simplement découvert par jeu, à travers le jeu, la vérité. C'est que l'expérience du numineux ne peut durer longtemps sans bouleverser l'esprit. J'ai cherché alors à distraire mon regard en suivant la courbe qui, partant des chapiteaux des colonnes disposées en demi-cercle, se dirigeait le long des nervures de la voûte vers la clé, répétant le mystère de l'ogive, qui se soutient sur une absence, suprême hypocrisie statique, et fait croire aux colonnes qu'elles poussent vers le haut les liernes, et à celles-ci, repoussées par la clé, qu'elles fixent à terre les colonnes, la voûte étant en revanche un tout et un rien. Effet et cause en même temps. Mais je réalisais que négliger le pendule, pendant de la voûte, et admirer la voûte, c'était comme s'abstenir de boire à la source pour s'enivrer de la fontaine. Le cœur de Saint-Martin-des-Champs n'avait d'existence que parce que pouvait exister en vertu de la loi le pendule. Et celui-ci existait parce qu'existait celui-là. On n'échappe pas à un infini, me dis-je. En fuyant vers un autre infini, on n'échappe pas à la révélation de l'identique en s'imaginant pouvoir rencontrer le différent. Sans pouvoir davantage détourner les yeux de la clé de voûte, je reculais pas à pas. Car en quelques minutes, depuis que j'étais entré, j'avais appris le parcours par cœur, et les grandes tortues de métal qui défilaient à mes côtés étaient suffisamment imposantes pour que le coin de l'œil perçût leur présence. Je marchais à reculons le long de la nef, vers la porte d'entrée, et de nouveau, je fus surplombé par ces menaçants oiseaux préhistoriques en toiles rongées et fils métalliques, par ces libellules hostiles qu'une volonté occulte avait fait pendre du plafond de la nef. Je les percevais comme des métaphores savantes, bien plus significatives et allusives que le prétexte didactique n'avait fin de les avoir voulu. Un vol d'insectes et de reptiles jurassiques, une allégorie des longues migrations que le pendule résumait à terre, archontes, émanations perverses, voilà qu'ils piquaient sur moi, avec leurs immenses becs d'archéoptérix, l'aéroplane de Breguet, celui de Blériot, d'Esnault et l'hélicoptère de Dufault. Ainsi, en effet, entre-t-on au Conservatoire des Arts et Métiers, à Paris, après avoir traversé une cour 18e, posant le pied à l'intérieur de la vieille église abbatiale enchâssée dans l'ensemble plus tardif, comme elle était jadis enchâssée dans le prieuré originel. On entre et on se trouve ébloui par cette conjuration qui réunit l'univers supérieur des ogives célestes et le monde chthonien des dévoreurs d'huile minérale. À terre s'étend une théorie de véhicules automobiles, bicyclettes et voitures à vapeur. D'en haut dominent les avions des pionniers. En certains cas, les objets sont intacts, encore qu'écaillés, corrodés par le temps, et ils ont l'air, tous ensemble, à la lumière ambiguë en partie naturelle et en partie électrique, recouverts d'une patine, d'un vernis de vieux violons. D'autres fois, il reste des squelettes, des châssis, des dislocations de bielles et de manivelles, qui font peser la menace d'inracontables tortures, enchaînées qu'on se voit déjà à ces lits de contention où quelque chose pourrait se mettre en branle et à fouiller les chairs jusqu'aux aveux. Et au-delà de cette série d'anciens objets mobiles, maintenant immobiles, à l'âme rouillée, pur signe d'un orgueil technologique qui les a voulu exposer à la révérence des visiteurs, veillés à gauche par une statue de la liberté modèle réduit de celle que Bartholdi avait projetée pour un autre monde, et à droite par une statue de Pascal, s'ouvre le cœur, où, aux oscillations du pendule, fait couronne le cauchemar d'un entomologiste malade. Chélates, mandibules, antennes, proglottis, ailes, pattes. Un cimetière de cadavres mécaniques qui pourrait se remettre à marcher tous en même temps. Magnéto, transformateur monophasé, turbine, groupe convertisseur, machine à vapeur, dynamo. Et au fond, au-delà du pendule, dans le promenoir, des idoles assyriennes, chaldaïques, carthaginoises. Deux grands bâles au ventre un jour brûlant, des vierges de Nuremberg avec leur cœur hérissé de clous mis à nu, ceux qui avaient été autrefois des moteurs d'aéroplanes, indicibles couronnes de simulacres prosternées dans l'adoration du pendule, comme si les enfants de la raison et des lumières avaient été condamnés à garder pour l'éternité le symbole même de la tradition et de la sapience. Et les touristes ennuyés qui paient leurs 9 francs à la caisse et entrent gratis le dimanche peuvent donc penser que de vieux messieurs du 19e siècle, la barbe jaunie de nicotine, le col froissé et graisseux, la cravate lavalière noire, la redingote puant le tabac à priser, les doigts brunis par les acides, l'esprit acide d'envies académiques, des fantômes de pochade qui s'appelaient à tour de rôle « cher maître », ont placé ces objets sous ces voûtes dans une vertueuse volonté d'exposition, pour satisfaire le contribuable bourgeois et radical, pour célébrer les voies radieuses du progrès. Non. Non, Saint-Martin-des-Champs a été pensé d'abord comme prieuré, et ensuite comme musée révolutionnaire, en tant que recueil des sciences des plus mystérieuses. Et ces avions, ces machines automotrices, ces squelettes électromagnétiques se trouvaient là pour entretenir un dialogue dont m'échappait encore la formule. Aurais-je dû croire, comme me disait hypocritement le catalogue, que la belle entreprise avait été pensée par ces messieurs de la Convention afin de rendre accessible aux masses un sanctuaire de tous les arts et métiers, quand il était si évident que le projet, et jusqu'aux mots employés, était ceux-là même dont Bacon se servait pour décrire la maison de Salomon de sa nouvelle Atlantide. Possible que moi seul, moi et Jacopo Belbo et Diotta Levi, ayons eu l'intuition de la vérité? Ce soir-là, j'allais peut-être savoir la réponse. Il fallait que je parvienne à rester dans le musée au-delà de l'heure de la fermeture en attendant minuit. Par où ils entreraient, je ne le savais pas. Je soupçonnais que le long du réseau des égouts de Paris, un conduit reliait quelque point du musée à quelque autre point de la ville. Peut-être près de la porte Saint-Denis. Mais à coup sûr, je savais que si je sortais, je ne rentrerais pas par ce côté. Il fallait donc que je me cache et que je reste dedans. Je cherchais à échapper à la fascination des lieux et à regarder la nef avec des yeux froids. À présent, je ne cherchais plus une révélation, je voulais une information. J'imaginais que dans les autres salles, il serait difficile de trouver un endroit où j'aurais pu déjouer le contrôle des gardiens. C'est leur métier, au moment de fermer, de faire le tour des salles pour voir si un voleur ne se tapit pas quelque part. Mais ici, dans la nef embouteillée de véhicules, quel endroit meilleur pour se glisser quelque part comme passager, se cacher, vivant dans un véhicule mort? Des jeux, nous en avions tant fait, et même trop, pour ne pas tenter encore celui-ci. Allons, du cœur, me dis-je, ne pense plus à la sapience, demande aide à la science.